André Glenn de la Micro, bonjour, bienvenue à cette mise à jour du projet de l'étape de conception opérationnelle du système normalisé de délégation et d'accès qui se tient le 18 janvier 2022 à 15h UTC. Je m'appelle André Glenn et je vais gérer la participation à distance pour cette séance. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et suit les normes de comportement attendues de l'ICANN. Pendant cette séance, les questions et les commentaires ne seront lus à haute voix à la fin de la présentation que si envoyé à travers la fonction questions et réponses de Zoom. L'interprétation pour cette séance inclut l'anglais, le français, l'espagnol, le russe, l'arabe et le chinois. Sous peu, je partagerai des instructions sur le chat pour que tout le monde sache comment participer à travers le téléphone ou pour accéder à l'interprétation. Tout le monde peut envoyer des messages à travers le chat, mais assurez-vous de sélectionner comme destinataire tout le monde pour que tout un chacun puisse voir vos commentaires. La réunion se tient en format webinaire de Zoom, c'est-à-dire que les messages envoyés d'un panéliste ou un participant à un autre participant seront également visibles pour le hôte, le co-hôte et les autres panélistes. Sur ce, je cède la parole à Elisa Egobian. Allez-y. Elisa Egobian au micro. Bonjour à tous. Merci Andrea. Bienvenue. Je m'appelle Elisa Egobian et je suis directrice principale de notre étape de construction opérationnelle du SSAD. Désolée. Pardon, j'avais des problèmes de connexion. Merci encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui pour la mise à jour sur l'étape de conception opérationnelle du SSAD. Le mois dernier, nous avons échangé des communications avec la communauté, ce qui veut dire que nous avons tout intégré et que l'étape de conception opérationnelle est à présent terminée. Dans la prochaine semaine à peu près, nous allons présenter un document qui présente tous nos constats et la proposition définie pour ce projet. Nous le présenterons au conseil d'administration pour sa présentation et le publierons à travers le site de l'ICANN pour que vous puissiez tous le consulter. Même si le document n'est pas encore prêt, nous voulions signaler qu'avec le webinaire d'aujourd'hui, la communauté pourra connaître le calendrier que nous nous sommes proposés pour tout le projet, la future des coûts et des frais, un récapitulatif, les considérations dont nous avons tenu compte et les questions et réponses. Tout sera consolidé dans le document final qui sera bientôt publié, comme je l'ai déjà dit. Donc, pour présenter les points de notre ordre du jour aujourd'hui, nous aurons aujourd'hui Isabelle de l'équipe GEDEP qui va présenter ce que j'ai déjà évoqué, y compris le calendrier estimé pour le développement et la mise en œuvre du SAD. Shaniki Wise de l'équipe des finances syndicales présentera les coûts estimés du développement du SAD ainsi que la vitesse prévu pour les requérants qui enverront des demandes. Et finalement, le directeur du programme présentera un récapitulatif du travail de l'ODP et des autres sujets qui ont été soulevés par le reste des membres de l'équipe. Et bien sûr, nous espérons que vous aurez des questions et des réponses à la fin de la présentation pour essayer d'y répondre. Sur ce, je vais passer la parole à Isabelle. Isabelle Colasadeschina au micro. Merci Elisa et bonjour à tous. Je présenterai une vue d'ensemble du calendrier de mise en œuvre et de développement du SAD. Diapositive suivante. Et la suivante. Merci Andrea. Comme cela a été dit, dans le cadre de mise en œuvre par consensus, si les recommandations sont approuvées par le conseil d'administration de l'ICANN, elles sont alors envoyées à l'organisation ICANN pour qu'elle mette en œuvre ses recommandations de politique. L'idée est que la rédaction soit adoptée par consensus et présentée à la communauté pour ses considérations. Il est à présent difficile de prévoir combien de temps est nécessaire pour pouvoir rédiger la politique. Mais suivant notre expérience avec la mise en œuvre de l'EPDP, nous considérons qu'il pourrait prendre à peu près 2 ans de compléter ce travail. La rédaction du texte de la politique pourrait suivre 2 scénarios probables que nous avons considérés. Alors, nous avons estimé d'une part que cela pourrait prendre 3 ans que de développer le SAD et de le mettre en œuvre. Et le deuxième cas que nous estimons est que cela pourrait prendre à peu près 4 ans que de développer le SAD. Suivant la complexité du SAD, ainsi que la quantité de systèmes qui en sont impactés et la quantité de processus nécessaires pour pouvoir mettre à jour et développer le système. En général, s'agissant du calendrier, nous l'avons divisé en 3 étapes fonctionnelles, à savoir, d'une part, le travail de l'équipe de révision de la mise en œuvre, deuxièmement, le développement et la mise en œuvre du système, et finalement, les opérations en cours. L'organisation ICANN essaiera de pouvoir compléter les activités de mise en œuvre à mesure qu'on avancera avec le reste du travail, et dans la mesure du possible, bien évidemment. Diapo suivante. Ici, on décrit le scénario 1, disant que ça pourrait prendre à peu près 5 ans de lancer le SAD. Cela comprend les 2 ans de rédaction du texte de politique de consensus dont je parlais, ainsi que le temps de développement et de mise en œuvre du SAD à proprement parler. Diapositive suivante. Ici, ce graphique montre le deuxième scénario, estimant que ça pourrait prendre à peu près 6 ans que de lancer le SAD, comprenant, comme je le disais, les 3 ans de travail de rédaction du texte de la politique de consensus et les 45 mois de développement et de mise en œuvre du SAD. Donc, la différence entre ces deux scénarios correspond à la durée du travail de développement et de mise en œuvre du SAD et la rédaction de la politique de consensus. L'organisation ICANN, par exemple, sous-traitera une partie du travail avec les vendeurs, mais à présent, nous ne savons pas comment les vendeurs procéderont au développement et à la mise en œuvre de la technologie. Il y a également des contraintes de technologie que nous ne connaissons pas, par exemple la vérification d'identité, ce qui augmentera la complexité au moment de développer un système. C'est pourquoi nous avons prévu que ce travail puisse prendre entre 3 et 4 ans. Diapositive suivante. Merci. Ici, j'ai apporté un peu plus de détails vis-à-vis du travail fonctionnel et de tout ce qui doit se faire pour pouvoir lancer le SAD. Comme je l'ai dit, la première étape sera le travail de l'équipe de révision de mise en œuvre qui travaillera pour rédiger et publier le texte d'une politique de consensus. Texte qui devra être rédigé à travers un travail collaboratif, mais comme on ne sait pas combien de temps cela pourrait prendre de rédiger le texte, nous estimons que ça pourrait prendre à peu près 24 mois, 2 ans, que de pouvoir compléter ce processus. Le travail de l'équipe IRC sera de développer et confirmer les exigences ainsi que de rédiger le texte de la politique de consensus et se fera en parallèle avec d'autres procédures. Donc, ils devront créer des documents en même temps, ce qui pourrait prendre à peu près 12 mois selon nos calculs. Ils vont devoir concevoir les processus et les exigences des systèmes, ce qui pourrait prendre 12 mois. Et puis, nous aurons l'identification et la passation de marché avec les vendeurs, qui pourrait prendre 9 mois. Nous estimons que cela puisse se faire en 2 étapes, en fonction bien sûr des vendeurs avec qui on travaillera à ce moment. Par exemple, les vendeurs avec qui nous avons travaillé pour concevoir le système et les vendeurs avec qui nous travaillerons pour les audits ou pour les enquêtes sur le SAD. Diapo suivante. Merci. Ici, j'aborde le travail des 2 autres étapes. À savoir la catégorie de travail de développement et de mise en œuvre du SAD qui aura lieu une fois que le texte de la politique de consensus sera finalisé et que la date d'entrée en vigueur de la politique aura été annoncée. Ça n'a rien à voir avec la complexité du SAD, ça va dépendre de la quantité de systèmes qui doivent être développés suivant la complexité, c'est indirect, le rapport entre les deux, et de la quantité de ressources disponibles pour contrôler le développement et la mise en œuvre du SAD. Il y aura également du travail qui devra se faire en parallèle, ce qui comprend la création des instruments juridiques, mais également l'intégration et la mise en œuvre des parties contractantes avec le SAD, qui devra se compléter avant que le SAD ne puisse être lancé. Il y aura également la préparation opérationnelle qui comprend l'intégration et la formation des vendeurs qui devrait prendre entre 3 et 6 mois. Et puis nous aurons une campagne de sensibilisation pour le SAD qui aura lieu pendant à peu près 9 mois. Finalement, nous aurons un autre axe de travail qui sera celui des opérations en cours qui se fera une fois que le SAD aura été développé et qui sera opérationnel. Merci. Je vais maintenant céder la parole à mon collègue Chani, puis parlera de la structure des coûts et des frais. Chani Kidwai au micro. Merci Isabelle. Merci à tous de nous avoir rejoints. Je suis Chani Kidwai de l'équipe des finances de l'organisation ICAJ. Cette diapositive ici, je montre ce dont je parlerai aujourd'hui. Aujourd'hui, je parlerai du volume projeté pour calculer les prix et la structure du système SAP. Mais avant cela, je voulais vous fournir un peu de contexte et vous expliquer quelles étaient nos hypothèses de base. Les aspects financiers compris dans cette présentation sont en conformité avec les exigences politiques présentées dans le rapport final de la spécification temporaire pour l'enregistrement de les données d'enregistrement de GTLD correspondant à l'étape 2 de l'EPDP. Certains des points clés qui seront abordés ici sont le volume prévu d'utilisateurs, les vérifications de déclaration des demandeurs, la vérification de l'identité des accréditations et les demandes de divulgation. Par ailleurs, nous aborderons les coûts estimés de conception et de mise en œuvre du système, les coûts estimés pour exploiter le système chaque année et les frais que l'ICANN proposera de prélever. Toutes les données financières présentées ici sont dans des plages plutôt que de fournir des chiffres précis, étant donné l'incertitude qui existe au moment de projeter des coûts qui incluent différentes hypothèses. Diapositive suivante. Avant de passer aux chiffres, j'ai d'autres considérations à expliquer. Les coûts d'exploitation du système dépendent beaucoup du volume de demandes d'identification d'accréditation et de vérification de déclaration des demandeurs. L'organisation ICANN a effectué des analyses à l'interne pour projeter le volume, y a collaboré avec la communauté et travaille à présent avec un vendeur externe pour essayer de mieux comprendre cela. Le système fournit également des retours plus clairs. Nous avons inclus des enquêtes avec des membres de la communauté, avec des parties contractantes. Nous avons analysé les données disponibles. Nous avons vu quel est l'usage du WIS suivant les rapports des opérateurs de registre et nous avons consulté avec le PDP. Donc, au moment de passer à la présentation, en fait, on fera des projections de volume, les plages et l'importance de comprendre ce volume. Mais beaucoup de travail a été accompli pour essayer de comprendre quels sont justement ces volumes. Le système que nous espérons concevoir pourra supporter bien plus de demandes et les coûts de développement et de mise en œuvre de ce système changera à mesure qu'on aura une connaissance plus claire des volumes d'usage. Mais au moment de calculer les coûts, les volumes ont un grand impact. Diapositive suivante. Nous avons ici un aperçu des volumes projetés. De gauche à droite, nous avons les différents scénarios. C'est-à-dire, en violet, nous avons le moindre des volumes, la moyenne au centre en orange, et en vert, le volume le plus élevé. Étant donné la variabilité entre les deux, nous avons choisi de ne pas donner des chiffres exacts. Pour les vérifications de déclaration des demandeurs, nous avons une variabilité d'entre 25 000 et 100 000. Les vérifications d'identité des accréditations varient entre 150 000 et 4 millions de dollars. Les demandes de divulgation de données, on passe de 100 000 dollars à 12 millions. Et pour les utilisateurs, cela varie entre 25 000 et 3 millions. Diapositive suivante. Alors, je vais maintenant passer au coût de conception et de mise en œuvre du système. L'organisation ICANN prévoit de pouvoir sous-traiter une bonne partie du travail pour pouvoir développer et lancer le système, mais le calendrier qui a été projeté inclut le temps nécessaire pour pouvoir lancer des appels à proposition, choisir les vendeurs et concevoir le système. On a déjà un peu discuté avec certains vendeurs, mais il n'y a pas eu de coût ou de points spécifiques qui aient été discutés avec eux. Et je signale que même si on travaillera avec des fournisseurs externes pour la construction du système et des outils, il y aura beaucoup, beaucoup de collaboration du côté de l'organisation ICANN pour être sûr que les vendeurs développent le système dont on a besoin et qu'ils collaborent et comprennent ce dont on a besoin, justement. Vous verrez les coûts dans la diapositive suivante.
Prochaine diapositive, les coûts pour la conception et la mise en œuvre de cette phase entre 20 millions et 27 millions. Cette projection est basée sur les informations connues. Ces coûts sont basés sur la conception, les processus que nous avons partagés déjà avec vous lors des séminaires web précédents et la fourchette parle de 20 à 27 millions de dollars. Vu la complexité qui peut surgir, cette gamme tient compte de tout cela. Nous tenons compte de ce qui est présenté ici dans la présentation, la complexité avec un modèle de complexité élevé. Et nous n'avons pas encore vraiment une idée. Nous avons estimé tout cela et nous pensons que nous serons plutôt près de 27 millions de dollars. Prochaine diapositive. Ici, vous voyez donc l'ensemble de ces coûts et vous voyez que les principaux coûts sur la droite de ce tableau sont les coûts pour développer le système d'autorité d'accréditation et le système de passerelle, d'autorité de passerelle centrale. Donc, la façon dont ces coûts ont été élaboré. Nous avons travaillé avec l'équipe de ITT. Nous avons tenu compte de tout ce qui était nécessaire pour exploiter ce système, pour savoir combien d'heures seraient nécessaires pour développer cela d'un point de vue de la technologie d'information. Nous avons appliqué cela en fonction du nombre d'heures et des taux que nous allons facturer pour faire ce type de travail. Donc, vous voyez ici le système d'autorité d'accréditation centrale représente 33%, le système d'autorité des passerelles centrales 20%. Sur la partie gauche, vous voyez en gris la partie du personnel de l'ICANN pour gérer ce processus, fournisseurs, etc. Pendant la mise en œuvre, nous comptons 22% et la partie de conception 14%. Et ensuite, nous avons d'autres coûts qui figurent ici, qui sont liés au système et à l'évolution du système tel qu'il existe déjà, comme ICANN.org, le portail. Et ensuite, nous aurons des coûts liés à la communication. Cela donne un total de 20 millions de dollars basés et en fonction de la complexité. Prochaine diapositive. Ici, je vais vous présenter les coûts pour l'exploitation du système. Comme je l'ai dit, ces coûts vont avoir un impact lié au volume des demandes d'identification, d'accréditation et des vérifications des déclarations des demandeurs. Les coûts pour exploiter ce système sont présentés en fonction de trois scénarios qui répondent au volume que nous avons présenté. Et en fonction de ces volumes projetés, les coûts vont de 14 millions à 106 millions par an. Et je vais vous expliquer pourquoi nous avons une fourchette aussi importante. Finalement, ce qui est inclus dans ces coûts pour exploiter ce système, les dépenses d'identification, d'accréditation, les dépenses de vérification et déclaration des demandeurs, le soutien du système, les frais de maintenance, le soutien des utilisateurs, audit, recherche concernant l'utilisation malveillante du système de SSAD et ICANN.org et le personnel de l'ICANN. Prochaine diapositive. Et si l'on commence en haut de ce tableau, vous voyez les coûts en vert, qui sont des coûts qui sont directement liés au volume, et ce sont des coûts qui vont être modifiés en fonction des scénarios que nous avons ici. Le scénario que vous avez à droite signifie un volume bas, Et le scénario au milieu est un volume moyen que nous avons, dont nous avons parlé. Ensuite, le volume le plus élevé. Les dépenses directes vont de 5 millions à 95 millions en fonction des frais et concernant les fournisseurs, la vérification des déclarations de demandeurs et les vérifications et autres types de vérifications. Ensuite, nous avons les dépenses d'exploitation annuelles qui vont de 4 à 7 millions de dollars. Ces coûts peuvent changer en fonction des volumes, mais vous voyez ici qu'ils changent, que ce qui change surtout, c'est les coûts en vert qui sont en haut du tableau. Je ne vais pas passer tous ces coûts, vous les voyez ici, il y a beaucoup de dépenses dans cette exploitation. Et ce sont des dépenses que nous allons devoir avoir en fonction des politiques et des exigences du système appliqué. Et ensuite, vous avez une série de coûts qui sont les coûts de récupération et de mise en œuvre du développement. Ce sont des coûts qui sont destinés à des programmes pour réalisés par l'ICANN pour exploiter le système. Et dans ce but, nous allons mettre en place un système pour récupérer ces coûts sur une période de 4 ans et on pense que ce serait plus ou moins 20 millions de dollars et cela aura un impact par an de 4 millions de dollars. En bas du tableau, vous voyez les dépenses totales. Il s'agit de 14 jusqu'à 106 millions en fonction de ces différence. Bon, maintenant, voyons la partie des prix. Les frais que Elkanor propose tiennent compte de la récupération des coûts totaux tels que cela a été présenté dans les exigences politiques, dans le rapport final des spécifications temporaires. Et cela comprend la conception, la mise en œuvre et les coûts opérationnels annuels. Et ces frais n'incluent pas des coûts pour les développement et l'exploitation de systèmes des parties contractantes ou tout coût indirect qui ne figure pas dans les exigences politiques. Avant de passer à ces prix spécifiques, je vais vous parler des frais, des différents types de frais. D'abord, nous avons les frais de vérification de l'identité de l'accréditation. C'est un frais que l'ICANN va facturer aux utilisateurs. Ensuite, nous avons l'autorité de créditation centrale qui va vérifier le type de personne qui veut utiliser le SAD et en tant qu'utilisateur non gouvernemental, les utilisateurs gouvernementaux qui demandent des données en tant que rôle de politique publique vont avoir besoin de vérifier les pays et le territoire. Ensuite, nous avons les frais de vérification de déclaration du demandeur. C'est un frais que l'ICANN va facturer pour vérifier les caractéristiques des personnes qui peuvent être applicables pour demander des données d'enregistrement non public. Un exemple est le contrôle ou la propriété de marque. Et ensuite, nous avons les frais de traitement, de demande, de divulgation. C'est un frais que ICANN va facturer pour les utilisateurs qui n'ont pas des données d'enregistrement non public. Ici, vous voyez la fourchette de prix, comme un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. En violet sur la gauche, vous avez le volume associé au scénario de volume bas. De l'autre côté, en vert, volume le plus élevé et au milieu, le volume moyen. Pour la vérification de la déclaration des demandeurs, nous avons un prix allant de 190 à 160 000. Pour les vérifications d'identité d'accréditation, nous avons une gamme de 85 à 21 dollars. Et pour les demandes de divulgation, 39 à 0,43 dollars. Et ces prix sont indiqués ici et dépendent du volume, comme on l'a déjà dit, en fonction du volume, donc, et en fonction de tout cela aura un impact sur le prix que nous allons facturer Et donc, nous sommes en train d'essayer de toute façon de récupérer tous les coûts et tout cela donc figure ici dans ces prix, l'évaluation de ces prix. Dernière diapositive concernant la partie financière. Ici, vous voyez les chiffres. Vous voyez en haut, en bleu, ce sont les différents volumes. Ensuite, vous avez les financements et les prix, les revenus que l'ICANN va recevoir. Ensuite, vous avez les dépenses qui incluent les dépenses directes, les dépenses d'exploitation annuelles et la récupération des coûts de développement. Et tout cela va donc en une gamme de prix que vous voyez ici sur l'écran. Et dans la dernière ligne, vous voyez que l'objectif ici est de parvenir à zéro. Pour tous les scénarios de volume, l'ICANN vise à avoir des récupérations de coûts de façon à ce que ce soit un programme neutre. Voilà, je vous remercie et s'il y a des questions, j'y répondrai et sinon, je donnerai la parole à Yuko. Merci. Et Yuko Yokoyama au micro. Nous prendrons les questions à la fin de cette séance. Par conséquent, nous allons passer à la prochaine diapositive. Il s'agit du résumé de l'évaluation de l'offre. Pour une question de transparence, je suis Yuko Yokoyama. Ici, vous voyez un résumé de ce qui a été jusqu'à maintenant, y compris les données des séminaires web précédents. À travers le système de conception, nous avons mis en place un système qui comprend toutes les recommandations qui sont complexes. Peut-être que vous vous souvenez, nous avons fait d'autres séminaires. Nous avons dit que SSA serait soutenu par différents acteurs. Et comme Isabelle l'a dit, au niveau du temps, vu la complexité, nous estimons entre 3 et 4 ans pour développer ce système et ses processus. Et il faut aussi dire que certains développements ne pourront pas être faits tant que l'IRT n'est pas terminé et que les documents politiques ne sont pas terminés. Donc, pour la phase de l'IRT, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore une idée de l'entrée que ça va donner, mais nous pensons que ce sera environ 2 ans et nous allons mettre en place d'autres travaux parallèles pour aller le plus rapidement possible. Au niveau des coûts, le résumé de ce qui a été fait aujourd'hui est en vert ici, hein, en orange et en orange clair, en orange foncé. Donc, pour le développement, on a des coûts de 20 à 27 millions. Pour l'exploitation annuelle, entre 14 et 107 millions. Et nous avons une fourchette très large que nous comprenons, mais il y a différentes étapes pour ces coûts, il y a variantes. Au niveau des autres coûts et en fonction des volumes, vous le voyez sur la partie en orange foncé, donc vérification de l'identité de l'accréditation, vérification des déclarations des demandeurs, etc. Tous ces coûts vont être récupérés à travers un système qui s'appelle SSAD, qui se trouve donc en orange, ici sur ce tableau. Tous les prix pour mettre en place ce système vont donner lieu à des structures du SSAD qui vont permettre au SSAD d'être durable au niveau financier. Ici, vous voyez toute la fourchette qui a été présentée au niveau des coûts de ce SSA. On a donc la vérification des identités, la vérification de la déclaration des demandeurs, les demandes de divulgation. Donc, c'est tous ces chiffres, hein, ont été estimés, vous les voyez ici, hein. Et peut-être que nous allons dépasser ce qui a été estimé ici, mais nous devions avoir une estimation générale qui va peut-être être modifiée dans le temps en fonction des volumes qui vont surgir. Au niveau de la conformité contractuelle, nous avons reçu peu de plaintes et je Je pense que nous avons reçu 3 plaintes par mois au cours de ces dernières années, donc c'est une quantité très basse. Et nous estimons que la demande sera inférieure à ce qui a été estimé. Et cela, nous en parlerons plus tard. Hein. Prochaine diapositive.
Merci. Ici, vous voyez, divisé en 2 colonnes, ce que l'ICANN peut ou pourra faire et fera, et ce qui n'y est pas compris. Alors, l'EFSAN, c'est le guichet unique des demandeurs pour la création d'un compte, pour vérifier leur identité et pour envoyer des demandes. Cela génère plus de prévisibilité à travers le même processus d'utilisation du EFSAN et à travers l'établissement des délais de réponse attendue, les SLA, les conventions de service pour les demandes présentées. Vous pourrez également potentiellement réduire ou éliminer le besoin des parties contractantes d'identifier des demandeurs. L'organisation ICANN n'est pas sûre du degré auquel les parties contractantes le font à présent. Sur la droite, vous voyez ce que l'EFSAN ne fera pas, qui est de créer un rôle où les informations puissent être disponibles sans frais. C'est-à-dire on ne traitera pas des demandes gratuitement. Pas à titre gratuit, j'insiste. On ne garantira pas non plus la divulgation de données. On ne pourra pas fournir des données d'enregistrement fiduciaire non plus. Ce n'est pas le seul moyen pour envoyer des demandes d'accès aux données. On peut toujours contacter directement la partie contractante, ce qui veut dire que l'EFSAN n'aura pas toutes les demandes d'accès à des données d'enregistrement. Les données partielles ne vous fourniront qu'une image biaisée, donc il est important de prendre en considération que l'accès aux données pourrait être limité. Il est également important de comprendre qu'on ne garantira pas non plus la participation de certains territoires et pays qui devraient accréditer des demandeurs gouvernementaux. Chacun devra concevoir son propre système d'intégration avec le EFSAN. Donc, les parties contractantes devront elles-mêmes toujours trouver un moyen d'analyser les demandes de leur côté. Diapositive suivante. Ici, vous voyez 4 scénarios de la recommandation qui sont considérés dans les points 9.4.1. Je ne vais pas le présenter dans le détail, mais sachez que les différents scénarios considérés dans le rapport final apparaissent au point 9.4. Diapositive suivante. Autre considération à en prendre note, nous avons déjà parlé de la grande complexité, donc les coûts de mise en œuvre pourraient être plus élevés que prévu, ce qui compliquerait la situation. Le système coûterait 9 millions pour sa conception et 9 millions pour son exploitation annuelle. Donc il est important d'analyser en profondeur chacune des recommandations de l'équipe ODP et de prendre le temps d'analyser toutes les exigences, ce qui nous permettra d'avoir une idée plus claire des coûts et des délais potentiels. Il y a également l'aspect de la durabilité financière. J'ai déjà parlé de la recommandation 14 qui spécifie que le SA doit se repayer de lui tout seul, que s'il y a plus d'utilisateurs et plus de demandes, il y aurait des frais plus élevés. S'il y avait moins de demandes, les frais pourraient être moins coûteux. Donc, il faut voir comment éviter de générer de cycles négatifs pour les utilisateurs qui verraient augmenter leurs frais et qui seraient bien sûr insatisfaits. Une autre cause d'insatisfaction, comme vous le voyez ici, serait le résultat de la demande de divulgation de données qui, comme je l'ai dit déjà, n'est pas garantie dans le SPAD. Pour compliquer davantage la situation, les domaines enregistrés à travers des services d'enregistrement fiduciaire et d'anonymisation ne sont pas considérés des données à l'origine d'un enregistrement sur le SAT, ce qui veut dire que les utilisateurs pourraient payer pour une demande de données et recevoir en réponse des informations d'un fournisseur de services d'anonymisation ou d'enregistrement fiduciaire et non pas les données du véritable titulaire du nom de domaine. Cela pourrait également générer une insatisfaction des utilisateurs. La quantité exacte des domaines qui sont enregistrés à travers des fournisseurs de services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire n'est pas connue, mais on estime qu'il s'agit à peu près de 30% des domaines enregistrés. Je voulais également dire qu'en général, cela pourrait générer des faiblesses pour notre système. Ici, nous parlons de la raison pour laquelle on a pensé à concevoir un ESAD, et c'était pour résoudre les problèmes de disponibilité de données générés par le RGPD. Le ESAD devrait nous permettre de ne plus avoir ce problème, mais le ESAD ne va pas éviter le RGPD ou d'autres restrictions applicables de la loi d'aucun autre pays ou territoire. Des problèmes d'accès aux données d'enregistrement et de leur divulgation. Ça ne changera point la responsabilité des parties contractantes au moment de décider de divulguer ou pas les données en fonction de la loi applicable. Les demandeurs seront toujours tenus de démontrer un intérêt légitime et légal pour accéder aux données. Donc, le système est recommandé pour améliorer le traitement des demandes d'accès aux données, mais il n'a pas d'impact sur la divulgation ou pas par les parties contractantes en réponse à une demande. Diapositive suivante. Nous avons partagé énormément d'informations aujourd'hui vis-à-vis des coûts, des frais, des calendriers estimés, de nos prévisions pour le SAD et de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Alors, prochaines étapes. Diapositive suivante. L'étape de conception opérationnelle, ODP, approche de sa fin. Il nous reste très peu de choses ici, puisqu'on touche à la fin de cette étape. Il manque la consultation avec le conseil d'administration et le conseil de la GNSO. L'ODA devrait être présenté au conseil d'administration avant février 2022 et être publié pour la communauté au même mois, ce qui marquera la fin de l'étape de conception opérationnelle. Une fois que cette étape sera achevée, le conseil d'administration considérera les 18 recommandations liées au SAD et ce qui suit. Dépendra de cette considération. Nous voilà à la fin de la présentation. Nous sommes maintenant prêts pour passer aux questions, si vous en avez. Andrea, micro. Merci, Yuko. Yuko, micro. Merci, Andrea. Andrea, Glenda, micro. Première question d'Alfredo Calderon. Quelles sont les données préalables utilisées pour établir les intervalles qui ont été expliqués? J'imagine que c'est Chani qui répondra à cette question, n'est-ce pas? Chani qui doit y avoir le micro. Vous m'entendez? Andrea, oui. Merci. Chani, micro. Est-ce que ça ne vous gênerait pas de répondre à la question? Je pense qu'elle a déjà répondu par écrit. Andrea, micro. Oui. Quelles sont les données utilisées pour déterminer les intervalles présentés? Chani, micro. Donnez-moi un instant, j'essaie de trouver ma réponse. Alors, les données utilisées pour estimer les intervalles de données viennent des données d'enquête avec la communauté, avec les parties contractantes, des données des services de conformité contractuelle, l'usage des WIS tels que calculés par les opérateurs de registre et les estimations de l'EPDP. Nous avons également demandé des informations un consultant externe. Mais en fait, tout cela aura une incidence sur le coût de conception et de mise en œuvre du système. J'espère avoir répondu. Under le micro, merci. Question suivante de SimTech. Quel est le coût à prévoir pour les opérations en cours de l'Ethan Chani? Je pense que ça vous correspond à un diamant. Chani qui doit le micro, merci. Le coût projeté d'exploitation du système varie entre 13 millions et 106 millions. Ce grand intervalle est dû au fait qu'il y a une grande variabilité au niveau du volume qui a un impact sur les coûts du système. Spécifiquement, la vérification d'identité pour l'accréditation et la vérification de déclaration des demandeurs ont un grand impact sur les coûts d'exploitation du système. Il y aurait également un frais par transaction individuelle que l'ITAN prélèverait pour chacune de ces vérifications. Andrea Micro, merci. Question suivante, d'Alfredo Calderon, il dit, il n'est pas clair pour moi si le ROI est sur 5 ans et calculé en fonction des activités. Est-ce le cas pour la révision des données? Est-ce que tout cela est inclus? Chani au micro. Merci. Merci pour cette question, Alfredo. Je pense que ce dont il parle est le fait que normalement, on devrait avoir un programme qui puisse couvrir les coûts d'exploitation ainsi que le coût de conception et de mise en œuvre. Nous avons supposé que le recouvrement des frais de mise en œuvre et de conception prendra 5 ans. Et donc, notre projection actuelle prend une estimative de 20 millions de dollars et nous avons prévu que ce soit récupéré d'ici 5 ans. Donc, on aurait 4 millions par an qu'on essaye de récupérer. De sorte qu'à la fin de cette période quinquennale, tous les coûts auront été récupérés. Andrew, micro, merci. Question suivante de Michael Palage. Il dit, dans la présentation, il y était dit que l'ICANN a été en contact avec les vendeurs. Désolé si je n'ai pas bien compris, mais je me demande si l'ICANN a été en contact avec des vendeurs autres que ceux qui ont répondu à l'appel à proposition pour l'ODP. Aaron? Aaron Hickman, micro, merci. Je ne pense pas qu'on en ait parlé, mais pour être clair, notre mécanisme principal pour obtenir des informations des vendeurs était notre demande d'information, RFI, et nous avons engagé des discussions avec ceux qui y ont répondu. Mais nous avons également fait des recherches sur Internet, essayant de trouver d'autres solutions qui pourraient nous apporter des modèles de conception et de développement. Et les réponses potentielles de tous les vendeurs au monde, qui n'ont pas nécessairement de contrat avec nous et qui n'ont pas nécessairement envoyé des réponses au RFI, mais en général, si on trouvait leur proposition acceptable, on passerait au RFP pour pouvoir conclure des contrats et pouvoir établir des liens formels avec ces personnes qui pourraient fournir des solutions. Merci. Andrea Micro, merci. Question suivante de Nigel Hickson qui demande, y aura-t-il une évaluation de quelque sorte par rapport au type de niveau de frais qui serait acceptable pour les utilisateurs, étant donné que cela déterminera si les différentes entités et organismes utilisent le SAD ou s'ils vont entrer en contact directement avec les parties contractantes? Yuko. Yuko, micro. Merci pour cette question, Nigel. Nous avons beaucoup échangé avec les différentes parties contractantes pour déterminer le volume, les coûts et la structure de ce système. Nous en avons déjà parlé à un nombre de séminaires au préalable, mais nous n'avons pas pu trouver un bon sous-traitant avec qui nous allier, étant donné la complexité du système. Il y en a qui ont présenté des propositions incomplètes ou non idéales. On essaye toujours de trouver de bonnes réponses, mais étant donné la difficulté, nous avons considéré la possibilité de faire un travail en dehors de l'ODP pour essayer d'identifier ces questions et savoir comment y procéder, comment nous y prendre. Andrea, merci. Question suivante de Maria Gabriela Matage. Tu dis, SAD, oui, font-ils en parallèle? Dans ce cas-là, dans l'affirmative, quels seraient les bénéfices d'une version payante? Est-ce qu'elle fonctionnera en parallèle? Du coup?
Merci. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien compris la question posée en termes de SSL. Il me semble que vous demandez si le SSL est le seul système pour l'enregistrement de données et quel est le bénéfice d'utiliser le SSL qui coûte de l'argent. Eh bien, je dirais que on va voir ce que le SSL peut donner, à savoir un processus harmonisé, rationalisé, et que vous verrez le temps à attendre une fois que la demande est présentée. Une fois que vous demandez les données, vous aurez un niveau de prévisibilité, pardon, qui vous permettra de savoir le temps que prendra les parties contractantes à vous répondre, par exemple. Je crois que ce sera un des bénéfices pour l'utilisateur, c'est-à-dire un endroit auquel vous pouvez et vous adresser lorsque vous avez besoin de données et vous aurez une certaine prévisibilité concernant la réponse à votre demande. Merci. Prochaine question, toujours de Maria Gabriela. Est-ce qu'il y a un modèle pour la complexité? Est-ce que nous avons un système? Et est-ce que nous n'avons pas reçu de questions? Est-ce que l'ICANN a un système? Et cette question est destinée à Chris. Une minute, s'il vous plaît. Chris. Allez-y. Excusez-moi, hein. Petit problème technique. Merci, Chris. Votre ligne est ouverte. Merci, Chris, qui est au micro. Oui, l'ICANN.org a créé un diagramme dans ce sens et nous avons une architecture de système potentiel qui seront complétées dans le processus, plus tard dans le processus de l'ODP et nous n'allons pas partager avec les autres fournisseurs et qui ont déjà donné leur réponse. La partie du diagramme de processus commercial a été utilisée par l'équipe pour évaluer le temps et les ressources qui sont nécessaires pour mettre en place cette solution et la gérer de manière continue. Merci. Merci, Chris. Prochaine question. Nous avons une autre question de Maria Gabriela. Whois fournit des données personnelles, des données non personnelles? C'est un commentaire plus qu'une question. Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais demander à Maria Gabriela d'éclaircir un petit peu sa question. Yuko au micro. Maria, est-ce que vous pourriez et préciser un petit peu ce que vous voulez dire ici. Andrea, au micro, parfait. Prochaine question de Susan Payne. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous envisagez le fait que les autorités d'accréditation gouvernementale sont aussi incluses dans ces coûts? Je pense que ce n'est pas le cas, mais est-ce que vous pourriez confirmer? Je donne la parole à Shani. Shani au micro, merci pour cette question. Je dirais que c'est les gouvernements qui vont décider de cela en fonction des exigences d'accréditation. Donc, l'ICANN ne peut pas estimer ses coûts puisque ça ne dépend pas de l'ICANN. Merci. Et prochaine question, une minute. La prochaine question est de Michael Palage et de Aaron Hickman, est destinée à Aaron Hickman. Est-ce que l'ICANN et pense qu'il va joindre des fournisseurs qui font partie de ce ODP? Est-ce qu'il a joint des fournisseurs qui ont soumis une RFI ou pas? Aaron Hickman au micro. Oui, je pense que on a posé déjà plusieurs questions concernant les fournisseurs. Une partie qui n'est pas claire ici, mais nous n'avons pas joint tous les fournisseurs dans le cadre de ce processus. C'est quelque chose que j'ai déjà dit et il y a eu une série de choses qui ont été faites et ce n'était pas confidentiel. Andrea Glandon au micro, merci beaucoup. Prochaine question de Alan Greenberg. Le EPDP permet à Iconor de supporter certains coûts d'exploitation. Votre présentation semble dire qu'il ne va pas y avoir de division dans ce sens ou de. Chani au micro, merci pour cette question. Donc, les exigences politiques indiquent qu'il doit y avoir, que ce doit être un programme avec une récupération de coûts pour notre organisation. Donc, c'est ce que nous avons projeté ici, en partant du principe que l'ICANN va récupérer le coût dans son système de conception, un coût au niveau annuel et au niveau de l'exploitation. Yoran Marby au micro, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, Yoran au micro. Il est clair que nous, si le conseil et de la GNSO et le conseil d'administration sont d'accord, c'est une. Un point important dans ce travail, rien n'est décidé jusqu'à ce que l'on prenne les décisions finales ici. Comme nous l'avons dit, pendant tout ce processus, ce sont des hypothèses que nous avons faites et c'est le conseil de la GNSO et le conseil d'administration qui prendront les décisions finales. Merci, Yoran. Prochaine question de Alan Greenberg. Est-ce que vous intégrez les coûts de développement dans les frais et dans la récupération de frais? Si oui, sur quelle période? Chani, allez-y. Chani, au micro, oui, nous avons intégré ces coûts et de récupération pour et les frais, tout cela figure et correspond à 20 millions de dollars que nous pensons récupérer sur 5 ans. Donc, nous avons des coûts annuels de 4 millions de dollars et nous avons un système de récupération pour ces frais. Bien, notre prochaine question de Stéphanie Perrin. Alors, des précisions, si les utilisateurs peuvent se présenter aux parties contractantes directement et les parties contractantes doivent répondre à ces demandes directement, qui est-ce qui va se présenter au SSAD et payer et pour être accrédité? Yeren au micro. Je voudrais aussi répondre à la question de Stephen Crocker. Est-ce que l'ICANN préfère utiliser le SSAD? Alors, nous suivons le PDP, je dirais, et ce PDP ne dit pas, n'indique pas que le SSAD doit être utilisé par les demandeurs. Notre hypothèse est que les demandeurs peuvent aussi se rendre directement, s'adresser directement aux parties contractantes et je pense que cette question est intéressante, hein, puisqu'on se demande s'il y a un coût, pourquoi est-ce qu'on va utiliser le SSAD? Pourquoi on ne va pas se présenter directement aux parties contractantes? Et nous n'avons pas de préférence en tant que ICANN org. Et donc, cela dépend du travail et du conseil et de l'EPDP. Je vois que dans le chat, certaines questions et commentaires indiquent parlent de ce PDP en lui-même. Et je dirais que nous ne prenons pas certaines parties du PDP. Nous utilisons le PDP telle la façon dont nous le comprenons et les discussions qui vont continuer à avoir lieu entre le conseil d'administration et la GNSO, le conseil de la GNSO. Merci. Prochaine question de Jonathan Souk. Quelle est la fourchette actuelle de réponse au niveau des prix qui provient du RFI, Aaron Hickman au micro. Je voudrais préciser qu'il s'agit ici d'une... La question de RFI était antérieure à la conception qui a été faite, qui résultait du ODP, donc aucune réponse au RFI a été faite en fonction des modèles de coûts. Il y a une série d'informations liées aux composantes qui ont fait qu'on a posé des questions liées à chaque fonctionnalité, à chaque niveau de fonction, à chaque capacité, chaque système que nous voulions analyser, et chaque partie va donner lieu à une réponse plus ou moins générale. Donc, il y a différents niveaux de spécificité en fonction de ce qu'on analyse, mais voilà, je crois que ce serait la réponse. Merci. Merci. Notre prochaine question est de Sarah Wild. Si les coûts sont récupérés sur les 5 premières années, est-ce qu'il y a une attente concernant les frais? Est-ce qu'ils vont diminuer puisque les coûts auront été déjà couverts? Chani, au micro, bien. Merci pour cette question. Je dirais que les coûts ou les frais que l'ICANN va facturer dérivent principalement des dépenses. Hein, et donc, en fonction des changements qui vont avoir lieu dans ces dépenses, cela va avoir un impact sur ces frais. Donc, ces frais peuvent diminuer ou augmenter. Et l'exemple que vous donnez, et bien sûr, pourrait entraîner un changement dans les prix. Donc, si nous récupérons ces coûts en 5 ans, la 6e année, il y aura un changement au niveau des coûts. Vous avez raison. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment, pour l'instant. Et Yuko Yama au micro. Merci, Andrea. Ah, il y a une question de plus de Cynthia King. Andrea Glandon au micro. La question de Cynthia King. Tous les quand est-ce que les prix seront révisés? Chani au micro, merci pour cette question. C'est quelque chose que nous sommes encore en train d'analyser, mais je dirais que ce sera un processus annuel dans la mesure où nous allons voir quels seront le niveau de prix par année et cela donnera lieu à un calcul pour les prix de l'année suivante. Et Andrea au micro. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Je donne la parole à Elisa. Elisa au micro. Merci Andrea. Merci à tous pour ces questions excellentes et pour les commentaires qui ont été faits dans le chat aussi. Je voulais à nouveau vous dire que Nous n'en sommes pas encore à la fin de notre partie de conception. Nous allons présenter tout cela au conseil et à la communauté. Notre intention est de publier ce document en ligne la semaine prochaine. Il y aura une annonce de l'ICANORG pour que vous puissiez le savoir. À nouveau, nous vous remercions pour les questions, pour votre participation. J'espère que nous y avons répondu dans leur ensemble, et sinon vous pouvez contacter et notre équipe, nous répondrons à vos questions. Donc je vous remercie tous à nouveau et c'est la fin de ce séminaire. Andrea Glandon au micro, parfait, merci à tous. Vous pouvez vous déconnecter, bonne fin de journée.